Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Grand Bien vous fasse en version grand format. Et si cette période de confinement était l'occasion de redécouvrir les mille et une vertus des contes ? On imagine que dès que les humains ont su parler, ils se sont racontés des histoires parce que ces récits les aidaient à surmonter leurs peurs, à créer du lien, à réfléchir, à transmettre ou tout simplement à s'évader. Alors dans quelle mesure aujourd'hui les contes, les légendes et les mythes peuvent-ils nous aider à tenir ? Quel genre d'histoire raconter en ce moment aux plus jeunes pour apaiser leurs angoisses ? Et d'ailleurs, pourquoi les enfants aiment-ils tant qu'on leur raconte inlassablement encore et encore les mêmes histoires ? En quoi ces contes les aident-ils à grandir et à se construire ? Nous allons en parler ce matin avec nos deux invités, Bernadette Bricout, professeure émérite de littérature orale à l'université Paris Diderot, et Claude Almos, psychanalyste. Et vous, racontez-nous l'importance toute particulière que revêt le rituel de l'histoire du soir en ce moment. Vos interrogations devant la signification de certains contes, les récits qui vous ont marqué et vous aident dans les moments difficiles. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Vers 9h55, l'ami Denis Chessoux viendra nous raconter une petite histoire à sa façon. En deuxième heure, avec l'écrivain Éric Orsenna, nous prendrons le temps de voyager un peu. Puis nous irons faire un tour en cuisine avec le physico-chimiste Raphaël Aumont, qui nous proposera des recettes simples à faire avec les enfants pour se régaler tout en faisant un peu de science. Vers 10h35, dans le deuxième dossier de l'émission, nous verrons comment préserver notre sommeil en cette période où tout est chamboulé. Le psychiatre Patrick Lemoine répondra à vos questions. Et Sophie Becherel de France Inter nous accompagne tout au long de cette émission. On est ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne au temps du confinement, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Daniel Fievé.
Enfin le voilà. On reconnaît de loin la démarche nonchalante du griot. L'arbre à palabres qui, durant la journée, préside au conseil du village, se change alors en F. Et l'emporte l'assemblée loin, bien loin du raisonnable, du pas possible, du rationnel. Et les histoires du vieux Cancou deviennent vraies. Demain, on pourra douter.
On commence cette discussion sur les contes sous l'arbre à palabres avec un griot en Afrique. Bonjour Claude Almos. Claude Almos, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors on verra si Claude Almos nous rejoint rapidement. Normalement, Bernadette Bricout, vous devriez être là, sinon je vais me sentir seule. Bonjour Bernadette.
Bonjour Daniel.
Vous êtes professeur émérite de littérature orale à l'université Paris Diderot. Vous avez écrit La clé des contes aux éditions Seuil. Et Bernadette Bricout, ça doit vous faire particulièrement plaisir de démarrer cette émission sous l'arbre à palabres, parce que vous êtes née à Bamako. Vos premiers souvenirs de contes remontent-ils à votre enfance là-bas ?
Ah, très probablement, oui, les premiers souvenirs, ça doit être sous l'arbre à palabres ou tout près du baobab, et à l'évidence, il en est resté quelque chose, parce que cet arbre à palabres autour duquel les gens se rassemblent nous rappelle que le conte est un art de la vie et d'abord un art de la relation. Il a pour vertu de lier les gens et de les amener à tisser du lien ensemble, ce qui est extrêmement important dans la période que nous vivons.
Et les contes occupent une place importante dans toutes les cultures. On a commencé avec l'Afrique, mais on aurait pu commencer n'importe où dans le monde. Il y a un côté universel aux contes. Il n'existe pas de civilisation ou d'époque où l'on ne se soit pas raconté des histoires, Bernadette Bricout.
D'abord, c'est vrai que le conte ne connaît pas de frontières. Il a voyagé avec la parole des colporteurs, des explorateurs, des errants. Et d'ailleurs, le conteur lui-même était traditionnellement un errant, ce griot dont vous parlez, le conteur qui allait de village en village, contant ses contes, chantant des chansons. Il faisait le lien entre des régions éloignées. En plus de cela, il y a quelque chose de très mystérieux dans les récits que vous évoquez, c'est qu'ils sont À la surface de la Terre, ils ont été recueillis pour les comptes dans des milliers de variantes, et des variantes qui s'appellent et se répondent. Alors on se demande pourquoi les comptes se ressemblent, comme on se demande pourquoi tous les arbres sont verts au même temps de l'année, même s'il y a mille nuances de vert. Mmh.
Pourquoi avons-nous besoin de ces comptes, et à tout âge? On parlera avec Claude Almos au sein du besoin de se faire raconter des histoires par les enfants. Mais pourquoi? Parce que les adultes aussi aiment qu'on leur raconte des histoires. Il y a des contes pour adultes. Pourquoi avons-nous besoin de ces contes viscéralement, Bernadette Bricout?
Je crois que la première raison, mais qui fera écho, je crois, à ce que nous vivons, c'est que les contes qui ont dû surgir, qui existent depuis la nuit des temps, ils ont dû surgir pour juguler des peurs et pour répondre à des questions qui restaient sans réponse. On peut imaginer que déjà, au temps des cavernes, lorsque les hommes ont vu se lever le soleil, eh bien, l'humanité a été hantée par la peur de savoir ce qui se passerait si le soleil ne revenait pas. Alors, on a inventé des histoires pour le faire revenir, pour l'accueillir, pour le chanter. On aura peut-être l'occasion de reparler de ces vertus de la parole chantée, et pour fêter la vie. Donc les contes, pour les adultes que nous sommes et pour toutes les générations, car dans la tradition orale, les contes s'adressaient vraiment à toutes les générations, les contes sont à la fois une mémoire, un système d'explication du monde sans que ce système soit jamais fermé. Ils répondent aux questions que l'enfant se pose et nous pose. Une parole fécondante, car d'une certaine manière, raconter un conte, raconter une histoire à quelqu'un, c'est une manière de l'accueillir, c'est une manière aussi de le fêter. Parfois, disent les Dogons, de lui faire l'amour. On pensait que le conte a des vertus fécondantes. Et puis, c'est aussi une manière, bien sûr, de juguler les peurs et de résister contre ce qui nous brime, car le conte a aussi, et on l'oublie trop souvent, une vertu libératrice.
Une manière de féconder, hein. Ça peut avoir vraiment quelque chose de très intime, un conte, on l'entend avec vous. Claude Almos nous a rejoint. Bonjour Claude.
Bonjour Daniel.
Vous êtes psychanalyste et vous vous êtes essayé vous-même à l'écriture de contes, puisque vous avez écrit Les Aventures d'Uruburu aux éditions Albin Michel. Vous pouvez compléter cette réponse de Claude Almos. Pourquoi les contes plaisent-ils tant aux enfants?
Mais vous savez, je crois que quand on raconte une histoire à un enfant, et encore plus un conte, parce qu'un conte c'est une histoire qui a voyagé, qui vient de loin, qui ira loin, enfin c'est un peu comme les nuages, les contes, hein. Mais quand on raconte une histoire à un enfant, quelle que soit l'histoire d'ailleurs, on lui ouvre une fenêtre, parce que on lui permet, quelle que soit sa vie réelle au moment où on lui raconte, de s'envoler par la pensée, par l'imagination. Et on voit bien à quel point ça peut être important en ce moment où ce qui se passe, c'est si pesant pour les adultes, mais aussi pour un enfant. Vous savez, quand on raconte une histoire à un enfant, son corps se relâche, et puis son imagination se met en marche. Et du coup, l'angoisse qu'il peut avoir dans sa vie présente se dessert. Il oublie ses problèmes, et puis il part dans l'histoire. Il peut devenir un des personnages de l'histoire. Et ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'elle commence, on traverse des émotions que l'enfant ressent. Par ailleurs, c'est très juste ce que disait Madame Bricout. Voilà, ce sont des peurs que d'autres peuvent éprouver. D'ailleurs, il y a l'idée très rassurante qu'on n'est pas le seul à l'éprouver, même si l'enfant ne s'en rend pas compte consciemment, bien sûr, il l'entend. Et puis, quand même, il y a toujours une solution, il y a toujours une résolution. Donc, il y a quelque part l'idée qu'il y a un bout au tunnel, il y a une fin au voyage. Et encore une fois, on voit bien pourquoi en ce moment c'est tellement important. De raconter des histoires aux enfants. Vraiment, c'est une fenêtre ouverte à tout moment de la vie, mais plus encore en période de confinement.
Et ce n'est pas Armand Bretagne, conteur professionnel, qui vient de nous appeler, qui dira le contraire. Bonjour Armand Bretagne.
Oui, bonjour, mais je suis pas professionnel.
Je suis
amateur. Oui, en fait, depuis que je suis à la retraite, je me suis lancé dans l'activité de conteur, et je fais autant, ce qui est surprenant, c'est que j'ai autant de bonnes, de, de bonne réception auprès des personnes âgées dans les EHPAD qu'auprès des enfants dans les bibliothèques ou dans les maisons d'accueil maternelle et tout ça. Et là, pendant le confinement, j'ai lancé un concours sur mon site, un concours demandant aux enfants qui le voulaient, aidés par leurs parents bien sûr, de me raconter des contes, me dire un peu ce qui se repassait par la tête, et je suis surpris de la quantité de réponses que j'ai. Je ne m'y attendais pas du tout, donc si vous voulez, ce petit témoignage là, juste pour dire que le conte, ça marche toujours.
Ah oui, ça marche toujours, Armand. Alors quel genre de réponses vous avez sur votre site internet que vous avez lancé ?
Eh ben, en fait, ce sont des contes. Les enfants me font des contes, me racontent leurs des histoires. Ouais. Et puis, c'est assez amusant parce qu'en fait, comment dire, quand on fait des contes, souvent, comme disait votre interlocutrice tout à l'heure à l'antenne, ce sont des histoires qui se répètent, qui viennent, qui ont voyagé à travers le monde par des conteurs professionnels. Et ici, on voit qu'avec les enfants, en fait, c'est tout un univers nouveau qui se crée, puisque vierge de tout historique, quoi. C'est vraiment leurs histoires à eux, et c'était assez amusant parce qu'on y retrouve beaucoup de choses qu'ils ont puisées dans leurs connaissances, qui sont soit leurs livres, soit les séries télévisées pour enfants. C'est très amusant, et très enrichissant.
Est-ce qu'ils parlent, Armand, dans les contes qu'ils inventent, de ce que l'on est en train de vivre en ce moment ? Est-ce que ça transparaît, cette période de confinement, cette épidémie ? Est-ce qu'on en retrouve des bribes, des éléments dans les histoires qu'ils inventent ?
Dans certains, oui. Pas dans tous, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a les parents qui filtrent un peu ce qui est dit, parce que en fait, ce sont des enfants souvent de 9 à 10, 11 ans qui écrivent, donc les textes, on voit bien qu'ils sont certains quand même repris par les parents, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu d'angoisse d'être enfermé, de pas sortir, donc il y a beaucoup de... Il y a un des contes qu'ils m'ont envoyé, s'appelle par exemple La Nuit Noire, vous voyez, donc c'est... Voilà, donc, ouais, ça se transparaît un petit peu, mais... Ouais. Mais pas trop quand même, pas trop. On ne sent pas qu'il y ait vraiment une grosse angoisse encore.
Armand, pour terminer, quelle est l'adresse de votre site internet pour les enfants ou leurs parents qui nous écoutent et qui aimeraient eux aussi vous envoyer leurs histoires ?
Oui, alors c'est pas très compliqué, c'est Armanel. Armanel, c'est comme Armand, mais c'est EL à la fin, à la place du D.
D'accord.
Armanel.e-mon-site.
Très bien. Et bon, on va mettre ça en lien sur la page de l'émission. Claude Almos, c'est intéressant ce que nous raconte Armand, parce que, évidemment, les enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, ils aiment aussi en inventer, et ça fait fructifier leur imaginaire, évidemment.
Et c'est d'ailleurs presque dommage que les parents interviennent dans ces histoires, parce que peut-être qu'il y a des enfants en ce moment, justement parce que plein de choses ne sont pas possibles, comme aller jouer dehors, aller jouer avec les copains, des choses qui sont fondamentales par ailleurs et très importantes, mais peut-être qu'ils vont découvrir qu'on peut inventer des mondes comme ça. Et c'est très important, notre interlocuteur parlait de La Nuit Noire, c'est très important que les enfants puissent raconter des histoires avec leurs angoisses et aillent jusqu'au bout, parce que c'est une façon de les sortir, de mettre les choses en mots, c'est ne plus être pris dans l'étau de ces choses, dans son corps et dans sa tête de la même façon. C'est une façon de les faire sortir de soi. Alors peut-être que je comprends en même temps tout à fait les parents, parce que ça fait un petit peu peur de voir que des enfants peuvent être aussi inquiets de la situation, mais en fait ils le sont. Et donc il faut juste leur permettre de sortir ça de leur tête. Et ensuite, d'ailleurs, on peut, si les parents veulent aider les enfants, ils peuvent tout à fait discuter avec eux de l'histoire en parlant du personnage de l'histoire et de comment on peut aider ce personnage et de comment il peut raconter plus de choses ou quelles solutions on peut trouver ou qu'est-ce qu'il pourrait se raconter, ce personnage dans sa tête, qui pourrait l'aider, comment on pourrait l'aider. Et à partir de là, on a à la fois permis à l'enfant d'exprimer ce qu'il avait dans son cœur et dans sa tête, comme on dit, et puis en même temps, on l'aide à trouver des solutions. C'est très très important, c'est formidable ce site, d'avoir créé ce site, et puis peut-être qu'on aura comme ça des comptes du confinement qui en plus seront faits par les enfants eux-mêmes, c'est magnifique. Mais malheureusement, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie, quand on dit tout ça, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'heure actuelle pour qui l'école était le seul extérieur possible et le seul lieu où il y avait des mots, et qui actuellement ne l'ont pas parce que l'école à distance, ça n'est possible que pour les enfants connectés. Et comme c'est en plus des enfants qui souvent souvent sont ceux qui sont le plus mal logés et qui donc sont dans des conditions les pires pour le confinement. Je crois qu'il ne faut pas qu'on les oublie quand on parle de tout ça.
On en parlera d'ailleurs dans cette émission aussi des vertus pédagogiques du conte. On s'intéresse aux mille et une vertus des contes ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Et vous, racontez-nous, racontez-vous au 01 45 24 7000 ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Cette émission est réalisée par Stéphanie Texier. Sophie Vaux m'a aidé à la préparer. Et c'est Pierre de Certaine qui s'occupe du standard avec Théo et Bianca au bout du fil aujourd'hui. À la technique, c'est Stéphane Boja.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent. Au sommet des collines, c'est une vieille ruine. Le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse. C'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance. À pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend. C'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre. Un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air. Un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose. Une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Pas de peine. Et un fin de camino, et un reste de toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
Les eaux de Mars en ce début avril, Georges Moustaki.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Daniel Fievé.
Et on s'intéresse aux contes et à leurs vertus avec Bernadette Bricout, professeure de littérature orale, et Claude Almost, Claude Almost, psychanalyste, et vos messages qui arrivent au 01 45 24 7000 et sur la page de Grand Bien Vous Fasse. Sonia, par exemple, nous dit « Bernadette Bricout nous a dit que le conte s'adressait aussi aux adultes. Pourquoi ramener toujours le débat sur l'enfant ? Le conte ne serait-il pas une aide aussi pour les adultes en cette période ?» Alors, et elle souligne d'ailleurs que beaucoup de conteuses et de conteurs racontent en ce moment des histoires sur les réseaux sociaux et qu'on peut les écouter aussi quand on est adulte. Bernadette Bricout, vous, c'est pas vous qui contredirez Sonia, vous êtes entièrement d'accord. Y a-t-il des grands contes qui nous renvoient à ce que nous vivons actuellement, qui parlent d'épidémie, qui parlent de crise passée ?
Alors, oui, d'abord, il faudrait effectivement souligner à quel point le travail des conteurs, Armand disait l'instant d'avant qu'il est un amateur, c'est-à-dire un amoureux, le travail de tous les amoureux du conte sur les réseaux sociaux comme dans les familles est important parce que le conte c'est une parole partagée et c'est une parole qui a pour vertu d'élargir les murs de la vie. Pour ce qui concerne les grands contes, il y a, alors évidemment on pense d'abord peut-être à La Belle au bois dormant qui est ce grand conte merveilleux qui nous parle d'un temps suspendu où le monde entre en sommeil pour un temps qui dans le conte dure 100 ans, mais nous voyons bien que dans ce temps de confinement, l'incertitude qui pèse sur sa durée et sur la manière dont on reviendra à la vie, dont le monde va renaître, participe des angoisses latentes qui peuvent se faire jour et qui nous traversent. Mais il y a beaucoup de récits de peur et de légendes qui évoquent aussi les épidémies, les famines, le temps des grandes peurs. Je demandais un jour à un conteur en Auvergne qu'est-ce que c'était que le temps des grandes peurs. Et il me dit, je sais pas très bien, mais c'est l'année où les femmes et les enfants se sont réfugiés dans les cavernes de la montagne. Donc au fond, ces peurs de l'humanité, dans une région donnée, souvent elles se confondent même avec le temps des guerres, eh bien elles ont donné naissance à des récits.
Vous auriez un exemple, Bernadette Bricout, à nous donner de contes qui met en scène, par exemple, la peste ou des épidémies qui ont secoué l'humanité par le passé?
Oui, alors il y a c'est un récit de peur et c'est un récit de peur qui a en même temps, on va le voir, une vertu d'enseignement et qui nous conte que un pèlerin quitte la maison de ses pères pour partir en Terre Sainte et donc il quitte son village qui est un gros village et voilà que sur la route il rencontre une dame vêtue de blanc et il ne la connaît pas, il lui demande qui elle est. « Je suis la peste, » répond-elle. « Et que viens-tu faire ici ?»« Je vais visiter ton village, » dit-elle. « J'y ferai 90 morts. »« 90 morts, » dit l'autre, « mais c'est énorme. »« 90 morts, pas un de plus. » Et chacun poursuit son chemin. Le pèlerin revient quelques années plus tard dans son village, qui était un gros village, et le village est dévasté. Les maisons tombent en ruine, les tombes sont couvertes de mousse, les jardins remplis d'herbes folles, il n'y a pas âme qui vive, et la seule personne qu'il va rencontrer dans le village, c'est la peste, toujours vêtue de blanc. Et il lui dit, mais tu m'avais promis de tuer moins de 100 morts, et il y avait 4000 âmes, il n'y a plus âme qui vive. J'ai tenu parole, dit la peste, j'ai tué 90 morts, pas un de plus. Tous les autres sont morts de peur.
Là, c'est un conte qui nous montre que ça nous aide aussi à réfléchir. Il y a presque une morale à ce conte, Bernadette Bricout.
Oui, vous avez raison. Il y a presque une morale qui est que la peur est probablement la peur partagée, la peur légitime, mais la peur est probablement le pire ennemi. Et dans le cas de cet ennemi invisible qu'est le coronavirus, que d'ailleurs on représente avec de petits dessins, ce qui est peut-être une manière, on parlait tout à l'heure des histoires destinées aux enfants, de l'apprivoiser, en tout cas de le rendre moins étranger, et bien dans le cas de l'ennemi invisible, les récits de peur traditionnels nous disent aussi, nous donnent aussi des moyens de vaincre ces peurs ou d'y répondre. Mmh. Il y a une autre légende que connaît bien Armand de Bretagne, puisqu'elle est présente dans le Barzansbrech d'Erzart de la Ville Marquée, qui est la légende de la peste des liens. Alors, je ne raconterai pas la peste des Lians. Cette peste des Lians a dévasté la ville des Lians. Elle y est d'ailleurs, elle est entrée dans la ville des Lians grâce au secours d'un jeune homme qui lui a aidé à traverser une rivière. Et seul le jeune homme et sa mère ont été épargnés. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que les habitants de cette région nous disent qu'on a pu vaincre la peste lorsqu'on l'a chanté, lorsqu'on a chanté ensemble et lorsqu'on l'a nommé. Quand la peste a été découverte, quand elle a été vaincue, elle n'a plus reparu. Et je crois que cela nous dit quelque chose aussi des vertus, par exemple, de ces chants que l'on a entendus sur les balcons italiens et qui sont une parole à partager, comme le sont le soir nos applaudissements.
Beaucoup de choses dans ces contes. Daniel nous a rejoint. Bonjour Daniel.
Bonjour à vous.
Alors notre thème vous a inspiré, les histoires vous occupent actuellement avec votre petit-fils ?
Alors les histoires m'occupent beaucoup parce que depuis le confinement, on a mis en place avec mon petit-fils et ma petite-nièce, Antoine et Margot, tous les matins à 10h30, je raconte des histoires par vidéo. Mmh. Donc j'ai des supports par livre et ils sont très intéressés. Et ce qui m'étonne, c'est qu'au début, on a commencé par 30 minutes. Bon, à 3 ans, ça paraît pas mal. Et puis maintenant, on en est à 1h30 tous les matins avec les enfants qui réclament. Donc c'est vraiment quelque chose qui les nourrit, qui me nourrit énormément, moi aussi, parce que tous les matins à 10h30, je dois être prête, etc. Et en ce moment, bon, c'est plutôt bien. Et en fait, aussi, par rapport à ce que j'ai entendu, ce qui m'a fait réagir, c'est qu'ils demandent souvent qu'on répète, que je raconte encore et encore et encore les mêmes histoires, toujours. Enfin, souvent, pas que, mais bon, voilà. Et aussi, ce qui m'étonne, et là, j'aimerais bien avoir l'avis un éclairage de la personne, la spécialiste, c'est qu'en fait, ils aiment beaucoup les histoires qui font peur. Et ils redemandent les histoires qui font peur. Ils redemandent d'avoir les images où il y a des monstres, des loups, etc. À tel point que moi-même, je me dis parfois... Bon, là, je devrais peut-être changer de et registre, oui. Je leur fais peut-être un peu trop peur.
Vous avez peur de traumatiser vos petits-enfants.
Ben, oui, voilà, donc je fais attention, mais c'est vrai qu'ils le demandent, mais en fait, en même temps, ils expriment leur peur. Oui. Ils disent « j'ai peur ». Alors, donc ça, c'est très étonnant, voilà.
On va demander à Claude Almos. Il y a deux choses. Il y a ce lien entre les générations. Et puis, c'est très beau ce que nous dit Daniel. Du coup, je dois me lever tôt, je dois préparer cette histoire. Ça lui fait quelque chose d'important dans la journée, un rendez-vous. Et puis, cette question, pourquoi toujours raconter les mêmes histoires? Et pourquoi ce goût pour les histoires qui font peur? Claude Almos.
Alors, raconter les mêmes histoires, c'est une espèce de continuité rassurante qui, au fond, montre à l'enfant que, enfin, donc l'histoire ne change pas, donc lui ne change pas non plus. C'est comme un repère dans le monde. Et d'ailleurs, c'est très important ce que cette grand-mère a instauré d'un moment à heure fixe. Mmh. Et on peut aussi instaurer quand on raconte dans la maison, même un petit endroit qui est l'endroit où on va raconter les histoires. Ça peut être sous la table de la cuisine. Hein. Ça n'a pas besoin d'être un lieu. D'être un lieu magnifique, mais
c'est encore mieux si c'est sous la table de la cuisine. Vous rigolez, c'est un lieu magnifique.
Moi, je trouve que c'est personnellement un lieu magnifique, mais peut-être que des adultes trouveront pas que c'est assez chic. Mais c'est pas chic, mais c'est formidable. Et en plus, c'est comme une grotte. Mais je pense que si on instaure un petit lieu comme ça, où c'est là que on raconte les histoires et toujours au même moment, c'est formidable parce que il y a la continuité. Encore une fois, qui dit à l'enfant que au milieu de tout ce qui se passe, il est toujours le même. Et la peur, c'est vraiment l'effet cathartique, comme on dit. C'est-à-dire que l'enfant sort sa peur de lui en la mettant dans l'histoire, et cette peur, elle a un début et elle a une fin. Et surtout, quand quelqu'un raconte le conte, il y a la présence de l'autre. Le problème de la peur et de l'angoisse face à ce qui se passe actuellement, mais face à toutes les angoisses auxquelles un enfant est soumis, c'est qu'il peut être seul avec ça, seul, même très entouré, si on ne l'écoute pas, si on ne prend pas du temps pour lui, ou si on est soi-même trop angoissé pour être là pour lui. Et donc, vivre une peur comme ça, sans un autre, sans une présence, c'est absolument terrible. Or là, il y a une présence, et on n'a peut-être pas assez parlé de la voix, et de comme c'est important la voix, parce que la voix, ça vous enveloppe, c'est un contenant. Et bien sûr, quand on est dans la même pièce que l'enfant, il y a le corps qui sert de contenant. On dit souvent, alors surtout chez les psys, hein, on parle aux enfants. Alors parler, bien sûr, c'est important, en condition de pas seulement jacasser comme ça, mais surtout, ce qui est important aussi suffit quelquefois simplement, c'est de mettre un bras autour de leurs épaules, parce que c'est un contenant, il y a quelque chose, et c'est ça assure de la présence de l'autre, on n'est pas seul. Et puis je voulais revenir, je crois qu'on peut pas séparer à propos des contes. D'ailleurs, je voudrais dire merci à Bernadette Bricout, parce que le conte sur la peste qu'elle vient de raconter, c'est formidable, moi ça me fait du bien. Mais je crois que quand des adultes, on peut pas séparer les adultes et les enfants, parce que quand un adulte, d'abord parce qu'il y a des adultes à qui les contes font du bien, et moi encore une fois ça vient de me faire du bien, mais l'adulte pour lui-même c'est important le conte, mais quand il raconte l'adulte le conte à un enfant, lui-même se fait du bien à lui-même, et au fond c'est ça aussi qui opère, cette espèce de partage dans la tendresse, dans le partage des mots, c'est ça qui opère aussi pour l'enfant. Et l'adulte en ce moment il se fait du bien avec des contes, parce que les contes c'est pour l'enfant comme pour lui, c'est les mots, c'est sortir de cette réalité tellement pesante, tellement angoissante. Et puis par exemple, qui a effectivement, moi j'ai été très frappée encore une fois par ce conte sur la peste, parce que il y a des gens qui sont morts de la peste a tué 90 personnes et tout le monde est mort, et au fond c'est comme si ça nous parlait de la différence entre la peur réelle, c'est-à-dire le risque réel, la peur réelle, elle est tout à fait légitime en ce moment, on ne peut pas l'enlever, et en même temps, les angoisses, hein, mourir de peur, c'est aussi quand même, ça nous parle de l'angoisse, c'est-à-dire toutes les angoisses que nous créons, et c'est tout à fait normal, on ne peut pas éviter ça, mais quand même, que nous créons, et qui ne sont pas aussi fondées sur autant de réalité que la peur. Hein. Et donc, ça montre aussi qu'il faut essayer de chasser ces angoisses. Et encore une fois, ce conte peut vraiment nous y aider. Je crois que se souvenir de ce conte, et que c'est pas forcément le coronavirus qui va nous faire du mal, mais ça peut être, et sans nous tuer, mais nous faire du mal, mais que c'est aussi les angoisses qu'on se crée à propos de lui, et que peut-être celles-là, on peut essayer un tout petit peu de les chasser de temps en temps.
Allez, on reprend cette discussion, on va écouter Louis Chédid, tout ce qu'on veut dans la vie, attention, tous les gestes barrières ne sont pas totalement respectés dans cette chanson.
Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie.
accord, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'était Louis Chédid dans Grand Bien Vous Fasse.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
Les contes sont bons. Ce matin, on s'intéresse aux bienfaits des contes, légendes et autres récits dans Grand Bien Vous Fasse, en compagnie de la psychanalyste Claude Almos et de la professeure en littérature orale Bernadette Bricou. Avec moi également Sophie Bécherel. Vous aviez une question, Sophie?
Oui, une question pour Claude Almos. En sciences sociales, est-ce qu'il existe des études sur la personnalité ou le psychisme d'adultes qui, alors qu'ils étaient enfants, n'ont jamais entendu ou lu de contes? Est-ce qu'on sait, par exemple, si ce sont des gens plus anxieux, plus fragiles?
Alors, je ne sais pas si, enfin, il existe peut-être des études, mais je ne les connais pas. Je suis pas du tout une spécialiste des sciences sociales, mais par contre, les adultes, quand ils parlent de leur vie en analyse, peuvent raconter à quel point c'est important qu'on leur ait raconté des histoires, à quel point ça leur a vraiment permis de sortir de leurs problèmes, mais aussi, enfin, c'est souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de familles où soit parce que socialement on ne parle pas beaucoup, soit parce que les parents sont eux-mêmes pris dans une telle détresse de par leur propre histoire qu'ils ont du mal à raconter des histoires à leurs enfants, et puis quelquefois ils ont du mal à en raconter parce qu'on ne leur en a pas raconté à eux, et quelquefois c'est l'école qui joue ce rôle-là, et c'est quelque chose de formidable, parce qu'encore une fois c'est pouvoir sortir ces problèmes de soi, les symboliser, et en même temps c'est une ouverture sur le monde, c'est-à-dire se rendre compte que il y a d'autres gens qui vivent la même chose, que donc d'autres gens trouvent des solutions et qu'on peut se référer à ça. Vraiment, apprendre à lire à un enfant et lui apprendre le goût de la lecture, et ça peut se faire par la voix, par les contes, par les choses qu'on lui raconte, c'est vraiment lui ouvrir un monde et lui ouvrir pour toute sa vie une porte de sortie par rapport aux problèmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui racontent à quel point les livres leur ont sauvé la vie. Mmh.
Les portes de sortie, c'est vrai qu'on en a besoin en ce moment. Hélène nous a rejoint. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous racontez
moi,
en ce moment.
Je suis une grand-mère qui vit à Bourgueil, dans région centre. Et j'ai pris conscience que ma petite fille, Anna, qui a 7 ans, avait un gros, gros chagrin parce qu'elle ne pourrait pas venir en vacances de Pâques chez nous. Chez nous, ça veut dire un grand jardin, une petite chatte qui s'appelle Plume, et plein de contes qu'on se raconte généralement au lit le soir avec le chat présent. Et donc, j'ai décidé... D'abord parce que moi ça m'occupe aussi comme la dame précédente, je récolte dans ma journée, je fais des photos du jardin, je peux mettre des lunettes sur des fleurs, enfin je fais des choses un petit peu merveilleuses, et puis je découpe dans les vieux journaux, je récolte des gommettes, enfin je lui fais tout un petit pactage comme ça que je mets dans une enveloppe, je lui propose un début d'histoire et elle va recevoir pendant toutes les vacances, j'espère, enfin selon les possibilités de la poste, une histoire tous les jours qu'elle va pouvoir créer elle-même. C'est-à-dire que, bon, ben, elle va être un peu Dieu, elle va faire ce qu'elle va vouloir, et j'espère que ça va enlever un peu sa tristesse. Ouais. Voilà.
Merci Hélène pour votre témoignage, j'espère qu'il donnera des idées, j'en suis sûr, à certains grands-parents qui nous écoutent. Claude Almos, là encore, c'est une belle façon de garder le lien, et puis de stimuler aussi la créativité des enfants, la capacité d'écrire, parce qu'il va falloir peut-être l'écrire, la suite de cette histoire.
Mais c'est extraordinairement important ce que fait cette dame pour sa petite fille. Bien sûr, ça soigne son chagrin du moment, ça compense l'absence, mais surtout, elle lui donne pour toute sa vie un point d'appui, parce que elle lui montre que quand les choses ne sont pas là et les êtres ne sont pas là pour de vrai auprès de nous, eh bien, nous pouvons les faire exister par les mots, par les dessins dans notre tête. Et ça, c'est un point d'appui absolument essentiel. Vous savez, dans la construction d'un être humain, petit à petit, ce qui est important pour un bébé, c'est de comprendre, et il comprend ça parce que sa maman lui parle, ou son parent qui est là lui parle, c'est de comprendre que quand quelqu'un n'est pas là, eh ben, on peut se raconter ce que maman nous a dit dans la tête, on peut faire exister maman dans la tête et donc ne pas être dans ce vide de la solitude. Et pour cette petite fille, c'est vraiment formidable parce que je pense que ça va lui faire en plus un grand bond dans sa vie parce qu'elle va se rendre compte de ça, et même par rapport d'ailleurs à ses acquisitions scolaires, à son envie d'apprendre, oui, à son envie de lire et d'acquérir des connaissances, ça peut être quelque chose d'absolument formidable, et je trouve que c'est un enseignement pour tout le monde parce que ça montre comment tous ces rituels qui en ce moment pour les enfants sont cassés, les week-ends avec les grands-parents, les vacances chez les grands-parents, tout ça, on peut non pas le remplacer, mais on peut faire que ça ne manque pas de façon douloureuse parce qu'on met des choses en place. Et encore une fois, en même temps, on apprend aux enfants à mettre en place.
Claude Almos, je voudrais qu'on prenne le temps de prendre un dernier auditeur parce qu'ensuite, Denis Chessoux nous attend lui aussi de chez lui pour nous raconter une histoire à sa façon. Jean-Louis, vous nous appelez de Savoie. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour. Je voulais juste vous raconter une petite histoire qui nous arrive dans ce petit village de Savoie qui s'appelle Conju. Nous avons une classe maternelle qui regroupe les enfants de 3 villages alentours. Et toutes les semaines, il y a une conteuse, une ancienne bibliothécaire, qui vient raconter des histoires les mardis matins aux enfants. Et là, bien sûr, elle peut pas. Donc, les enfants étaient demandeurs. Et ben, Claire a créé une petite chaîne YouTube. Alors, vous imaginez, en zone blanche, il faut 5 heures pour enregistrer 4 minutes.
Vous avez du courage et du mérite.
Et ma foi, ben, ça touche pas mal de monde et on a beaucoup de retours. Et avec l'institutrice Mireille, il y a eu une bonne entente et ça marche bien. On arrive à 1900 vues, 120 abonnés, ça va jusqu'en Suisse et même en Australie. On a eu quelqu'un d'Australie.
Ah, génial.
Qui nous a dit qu'il écoutait. Donc voilà, ben, la petite chaîne, ça s'appelle Claire et ses histoires. C'est sans prétention, c'est modeste, mais c'est à l'échelle de notre petit village. Parce qu'en fait, à la campagne, c'est vrai qu'on a de la chance, on est au soleil et à la nature, mais seulement les gens ne se voient pas, l'habitat est dispersé, et là, ça crée un lien, et ça continue un rituel. Et il y a aussi bien des contes de Grimm que des contes de Pef ou d'autres, enfin, voilà, tous les contes qui ont été racontés déjà à l'école et que les enfants se remémorent. Voilà,
formidable. Redites-nous le titre de cette chaîne YouTube pour qu'on vous retrouve.
C'est gentil. Claire et ses histoires.
Claire et ses histoires. On peut pas se tromper, c'est sur YouTube. Merci Jean-Louis. Bernadette Bricou, rapidement parce que Denis Chessoux nous attend. J'imagine que pour vous, la professeure de littérature orale et passionnée de contes, ça vous fait un bien fou et un immense plaisir de voir à quel point, à notre époque, on est encore très attaché à ces contes. Ils sont encore très vivants.
Oui, Claude Almos évoquait l'importance des contes dans la relation à l'enfant et aux craintes auxquelles il a à faire face. Moi, je voudrais insister aussi sur, si vous le voulez, dans le droit fil de ce qu'elle vient de dire, sur le fait que nous avons tous besoin de contes parce que la solitude aujourd'hui est une solitude partagée aussi par les adultes, dans un temps où l'autre, où l'étranger nous apparaît, peut nous apparaître en tout cas comme une menace, en tout cas comme quelqu'un dont il faut se défier. Il porte un masque, il porte peut-être en lui cet ennemi invisible que nous percevons comme un danger, et je crois que les contes nous apprennent d'abord à cultiver la bienveillance. Il y a des moments, disait Proust, où l'on a besoin de sortir de soi, d'accepter l'hospitalité de l'âme des autres.
Merci.
Eh bien, je crois que accepter l'hospitalité, c'est peut-être la leçon du conte.
Merci Bernadette. Denis Chessoux vient de nous rejoindre. Bonjour Denis.
Bonjour Denis. Bonjour cher Daniel, bonjour à tous.
Vous aimez bien d'habitude éditorialiser avec une pointe d'humour et une larme de poésie vos émissions. Et là, dans cette émission consacrée au conte, vous nous racontez une petite histoire de notre quotidien avec vos mots.
Allez, c'est parti, musique. C'était le mauvais temps des journées sans baiser. le temps des petits jours sans vraie poignée de main. La star du moment était hydroalcoolique et gelée. Alors on ne se poussait même plus du coude pour se dire quand même bonjour, mais ça psychotait grave, et c'est normal, car de ce nouveau virus, on ne connaissait pas bien les coutumes et les us. Et pourquoi maman, le monsieur, il a 80 rouleaux de PQ, 10 kilos de sucre et 35 boîtes de nouilles dans son caddie? Je sais pas, parce qu'il y avait sans doute une promo. Ah ouais, une promo sur les neurones atteints par la bêtise pour faire des stocks obscènes dans un pays d'abondance? Ah bah ouais, c'est sûrement ça mon chéri. Hein. Et puis d'ailleurs, ça va te faire un très bon sujet de dissertation. Eh ouais, il en faut jamais beaucoup, vous savez, pour que le vernis craquelle et que le gros chacun pour soi à la surface retrouve des ailes. Mais heureusement, la solidarité sur le dos des oiseaux en paix était remontée en flèche. Des milliers d'initiatives qui nous font tous humains et peut-être changer de rive. Alors un virus, on le sait, dévoile les fragilités de nos sociétés et peut-être nos forces de reconstruction demain sur un autre pied. Oui, le vieux monde se meurt, un virus sur l'accélérateur, mais le nouveau doit-il être à base de 5G et de 500 milliards d'objets connectés? Et pour la première fois, dites donc, changement de cap, ou juste deux mots pour faire envie? Déléguer à d'autres notre alimentation, notre capacité à soigner, notre cadre de vie est une folie. Les biens communs sont arrivés sur la table présidentielle et vraiment tant mieux. La nature éternue, les humains tous, effet boomerang, je régule, je disperse, je ventile. Moi le virus, je vous le fais en mode feu de broussaille, ou bien vais-je être plus cool avec elle ou il et ménager les jeunes pousses en mettant la pagaille. La vie se purge comme une cocotte minute en convoquant les cyclones et les virus du diable. Quelle est la part du feu et la part de la peur? La bourse ou la vie? L'enfer c'est les autres? Et moi, est-ce déjà mon heure? Alors désolé, Mr. Trump, la science ne fonctionne pas dans l'urgence et la réponse immédiate. Surtout quand les chercheurs passent plus de temps à trouver des financements qu'à chercher. On aime se faire peur, film catastrophe. Vous savez, la SF, elle a déjà tout dit. La réalité nous comble et on espère se tromper. Nos gouvernants font au mieux en naviguant, comme nous tous, à vue pour la vie. Le climat, la biodiversité, substrat premier de nos vies, qu'est-ce qu'on fait? On les glisse sous le paillasson à la sortie? Est-ce qu'on doit revenir au même et remettre une pièce à consommer et jouir et des milliards dans la machine à détruire? C'était le temps, le mauvais temps des journées sans baiser, le temps des petits jours sans vraie poignée de main. Et seul le vent du nord, la bise, avec ses grands bras froids, pouvait embrasser le ciel. Mais demain, maman, papa? Ah, demain. T'en fais pas, on pourra de nouveau s'embrasser et les mains se resserrer. Être et vivre dans ce monde qui nous dépasse. Mais là, regardez, les violettes sont de sortie. Regardez, les hirondelles de rocher et les milans sont déjà arrivés.
Merci Denis, et on aura le plaisir de vous retrouver avec CO2 Mon Amour et les reportages au grand air, ouais, dont on a besoin et dont vous avez le secret. Alors aujourd'hui, hein, dès aujourd'hui, samedi à 13h30, demain à dimanche, donc demain dimanche 13h30 aussi, vous nous emmènerez où?
Je vous emmène, aujourd'hui ça va être dans l'Isère, c'est une rediffusion, on va être à la découverte de ce renard, donc animal très futé, en affût pour guetter le renard futé, et demain ce sera dans les caps, le cap Blanc-Nez, le cap Griné, dans le Pas-de-Calais.
Ça nous a fait un bien fou de vous entendre, Denis, nous raconter ces histoires. Je signale merci, oui, on se retrouve la semaine prochaine, hein, Denis, ça y est, maintenant on a le numéro, on vous lâche pas comme
super.
On vous retrouve la semaine prochaine, passez un bon week-end. Je rappelle aussi que les podcasts de France Inter au lit pour ceux qui aiment les histoires, pour les plus jeunes et puis pour un peu plus grands, il y a aussi les grandes odyssées, les odyssées racontées par Laure Grand Besançon. À venir dans Grand Bien Vous Fasse, évasion et réflexion avec l'écrivain Éric Orsenna, de la cuisine gourmande et scientifique avec le chimiste Raphaël Aumont, et puis nous verrons comment prendre soin de notre sommeil dans la dernière partie de l'émission avec le psychiatre Patrick Lemoine. Vous pouvez d'ores et déjà lui adresser vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.